Donc, prions et après qu'on débute l'enseignement de la journée, je terminerai en toute fin de séance en vous rappelant les normes pour le déconfinement. Alors, Seigneur, merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour cette occasion de te célébrer, cette occasion de nous approcher de toi et de lire ta parole et de la méditer et de partager, Seigneur, quelques pensées encore aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de nous inspirer, de nous diriger, de nous conduire. Et nous prions, Seigneur, que cette parole qui est comme une semence éternelle, qu'elle puisse, Seigneur, être implantée dans nos vies, y trouver un terreau qui lui est fertile afin qu'elle s'enracine, qu'elle croisse et qu'elle porte un fruit qui te sera agréable de ce côté-ci de l'éternité. Tout comme, Seigneur, pour l'éternité que nous passerons en ta présence. Alors, Seigneur, que ta grâce nous soit accordée aujourd'hui, afin de bien saisir, de bien entendre et de bien recevoir cette parole. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, encore une fois, bonjour à tous. Bienvenue à cette toute première bénédiction matinale de la semaine. Cette semaine, nous poursuivons l'enseignement initié par le pasteur André Bernard hier matin lors de notre culte régulier. Vous savez que depuis déjà quelques semaines, ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre le verset clé de l'enseignement du dimanche et de le développer tout au long de la semaine. On le faisait déjà un peu lorsque c'était moi qui enseignais le dimanche matin, mais là, on prend l'habitude de le faire aussi en semaine avec la prédication d'un de mes collègues. Donc, on se réjouit pour ce passage qu'on trouve dans un livre qu'on lit peu souvent. On connaît le nom parce que c'est un peu particulier au niveau de la consonance en français. C'est dans le livre de Habacuc. Habacuc, un des petits prophètes de l'Ancien Testament, et c'est dans le chapitre 2, le verset 1. Je lis pour vous. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Je répète. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. » Donc, Habacuc au chapitre 2, le verset 1. Et la thématique pour cette semaine, le titre qui a été donné par le prédicateur hier, donc le pasteur André Bernard, « Être à son poste ». Donc, tout au long de cette semaine, alors qu'on va développer ce verset, on l'a divisé en quatre grandes sections pour l'étudier tout au long de cette semaine. On va toujours revenir à cette pensée d'être à son poste. Qu'est-ce que ça veut dire être à son poste? Et être à son poste dans des situations, dans des circonstances ou des contextes particuliers qu'on va essayer d'énumérer un peu cette semaine. Donc, la première partie qu'on va étudier aujourd'hui, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Deux termes importants. Le verbe être, bien entendu, j'étais. Et le terme « poste qu'on va bien sûr expliquer en hébreu tout d'abord, en donnant la terminologie hébraïque. Vous savez que l'Ancien Testament, comme on le répète, peut-être pour ceux qui se joignent à nous pour une première fois ou ceux qui ont peut-être pas toutes les connaissances que vous pourriez avoir au niveau des textes bibliques, l'Ancien Testament, donc foncièrement ce qui relate l'histoire du monde entre la création et jusqu'avant l'arrivée de Jésus, le Messie. Donc, tout cela a été écrit principalement en hébreu. Lorsqu'on passe maintenant à partir de la naissance de Jésus jusqu'au livre des Actes qui relate l'histoire de la première Église, l'histoire de l'Église primitive, c'est principalement écrit en grec, avec quelques petits encarts, dont le livre d'Hébreu en araméen. Donc, les termes qu'on étudie aujourd'hui, puisque le chapitre ou le verset qu'on étudie plutôt se trouve dans l'Ancien Testament, donc les termes qu'on va expliquer cette semaine sont des termes qui sont foncièrement en hébreu. Donc le terme être, le verbe être, en français va se dire en hébreu amad, A-M-A-D. Je répète, être, amad, A-M-A-D, qui va vouloir dire se lever, se tenir debout, prendre la barre un peu comme lorsqu'un témoin se présente à la cour et il doit expliquer quelque chose, où il doit donner un témoignage, donc il prend la barre, il se lève pour aller dans la section, dans le cubicule réservé aux témoins pour répondre aux avocats et aux juges. Et Ahmad veut aussi dire prendre position. Trois choses qui nous viennent à la pensée lorsqu'on trouve ce verbe Ahmad. J'étais à mon poste. Être à son poste, ici, on parle essentiellement d'une sentinelle, de quelqu'un qui est un peu un guetteur, un veilleur la nuit, de jour aussi en fait. Il se tenait sur un mur, les villes étaient fortifiées à l'époque, donc il y avait de grandes murailles autour des villes, et sur ces murailles, il y avait une espèce de couloir dans lequel les gardes soit prenaient position dans des sections particulières ou faisaient le tour de la ville et se relayaient dans ce tour-là pour voir au loin s'il y avait un danger qui guettait la ville, des ennemis qui pouvaient être en mouvement contre la ville, peut-être une tempête qui pouvait se lever au loin et s'approcher de la ville. Donc, ces sentinelles étaient là avec une trompette. Et lorsqu'ils voyaient le danger arriver, ils sonnaient de la trompette pour aviser effectivement toute la populace, toute la population de la ville, soit d'aller se mettre, se réfugier dans des abris, ou sinon, pour les hommes aussi, d'aller chercher leurs armes dans la maison et de monter eux aussi sur le mur pour attendre et faire face à l'ennemi. Si les gens étaient à l'extérieur de la ville, dans le champ, c'était aussi l'occasion pour la sentinelle de dire « Voici, il y a un danger qui vous guette, donc préparez-vous à rentrer ou rentrez tout de suite pour éviter la tourmente. » Donc, au son de la trompette, les gens savaient le bruit, le son, la mélodie qu'une trompette en cas d'urgence, comment elle sonnait. Donc à ce moment-là, ils couraient vers la ville pour s'y protéger et eux aussi monter donc sur le mur. Quand on parle de la sentinelle, on parle aussi d'un militaire. C'est un soldat, une sentinelle. C'est pas tout simplement un employé de la ville. C'est pas tout simplement un employé de la voirie. C'est vraiment un militaire. Donc formé comme militaire, prêt au combat, et de surcroît à cela, étant formé pour guetter, pour veiller, pour anticiper un danger pour ses concitoyens. Donc lorsqu'on parle d'Habacuc ici, qui se présente à son poste, qui est à son poste, on parle donc d'un militaire qui est effectivement sur la muraille en train de prier, d'intercéder pour la ville, donc un homme spirituel, un guerrier spirituel qui est en train d'intercéder pour le peuple juif et qui va avoir donc une rencontre avec Dieu. Donc être à mon poste. Être à son poste, la première chose que ça veut dire, être, ça veut donc dire que j'ai reçu et que j'ai accepté un lieu d'affectation. S'il dit qu'il était dans un endroit particulier et que cet endroit particulier était son poste, c'est donc qu'à un moment donné, il a reçu de la part de quelqu'un, de la part d'un plus haut gradé que lui, dans ce cas-ci de la part du Seigneur, de se tenir à tel endroit sur la muraille et d'être en intercession, voire de guetter, voire de veiller afin de prévenir l'attaque de l'ennemi. Lorsque nous sommes à notre poste, ça veut donc dire aussi que nous avons entendu nous-mêmes la voix de Dieu qui nous assignait à un lieu particulier d'affectation. il est malheureux de passer toute une vie sans savoir ce à quoi Dieu nous appelle. Il serait triste de passer toute une existence ici-bas sur Terre, 80 ans, 90 ans si vous êtes bien en forme, 100 ans ou autre si vous êtes extrêmement en forme, et d'arriver au crépuscule de votre vie et de vous demander, ai-je fait ce que je devais faire? Ai-je accompli ce que je devais accomplir? Voilà une question que Paul ne se posait pas lorsque lui est arrivé au crépuscule de sa vie, lorsqu'il est arrivé à la fin de son existence. Il va avoir cette phrase merveilleuse, « J'ai combattu le bon combat, j'ai couru la course, maintenant la couronne de vie m'est réservée. » Donc lui était capable de faire le bilan de son existence et de dire « J'ai fait exactement ce que je devais faire. » Faire ce qu'il devait faire, c'était tout d'abord avoir saisi, avoir compris et avoir accepté l'appel que Dieu avait lancé dans sa vie. Sachons une chose, au-delà de la question du ministère, où c'est une vie que Dieu prend, la vie d'un homme que Dieu prend et qu'il donne à l'Église, donc au-delà de la question du ministère, nous avons tous à servir dans le peuple de Dieu. Nous avons tous été créés avec un propos, avec un objectif, avec un plan de vie, avec un mandat de travail de la part du Seigneur à notre égard. Et la problématique pour toi et pour moi est de faire ce travail, d'arriver à saisir quelle était la pensée de Dieu quant à ma création, quant à ma formation, quelle était la pensée de Dieu pour mon travail, et la question, ai-je été ou suis-je actuellement en train de faire le travail que Dieu voulait me faire? Donc il y a des gens qui vont se promener tout au long de leur vie, qui vont déambuler tout au long de leur vie sans avoir pris le temps de demander à Dieu qu'est-ce que tu entends pour ma vie, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu espères de moi, quel était ton plan lorsque tu pensais à moi de toute éternité. Habacuc, au-delà des difficultés ou des problématiques qui peuvent être soulevées par lui, notamment sa frustration par rapport à comment Dieu va juger le peuple d'Israël. Habacuc, malgré tout, a reçu une affectation, l'a acceptée et s'y est rendu. Donc le premier point pour toi et pour moi qu'on doit comprendre ce matin, si on est à notre poste et si on veut être à notre poste, il nous faut donc chercher auprès du Seigneur une affectation et accepter cette affectation. Il y a des gens qui n'acceptent pas l'affectation de Dieu. Dieu leur dit, je veux que tu ailles à Saint-Lin-Lin du coin perdu du nord de je ne sais pas trop où. Et eux disent, non, je veux plutôt aller dans la grande ville, je veux plutôt aller au centre Belle et faire entendre ma voix là-bas. Et le Seigneur dit, non, je veux que tu ailles à Saint-Lin-Lin du coin perdu de je ne sais pas trop où, où il y a un seul habitant à 10 km à la ronde, mais c'est à lui que je veux que tu parles. Et toi, tu regardes tout ça et tu dis, non, Seigneur, moi, je préfère avoir plus de foule. Alors, tu prends le centre Belle. Ce faisant, effectivement, tu risques d'attirer une foule et peut-être que tu vas t'adresser à une foule, mais foncièrement, tu n'auras pas fait ce pour quoi tu as été créé. Et pour ce moment précis, ton poste, affecté par Dieu, désigné par Dieu, était d'aller à Saint-Lin-Lin de je ne sais pas trop où. Donc, la première question pour toi et pour moi ce matin, ai-je reçu et ai-je accepté mon lieu d'affectation? Je me rappelle de certains ouvriers, c'est un peu moins courant comme discours aujourd'hui, mais il y a encore quelques années, on l'entendait régulièrement, un ouvrier qui pouvait dire « Moi, je suis ici tout simplement parce que Dieu m'y oblige, mais je n'ai pas envie d'être ici et je n'aime pas nécessairement les gens auprès de qui Dieu m'a envoyé. » C'est une tristesse absolue d'arriver à un tel constat. Foncièrement, je pense que si Dieu t'envoie quelque part, il te donne aussi la grâce, l'affection et l'amour pour cet endroit. Peut-être que la personne qui se trouve dans un endroit où elle déteste ses concitoyens, une ville qu'elle n'aime pas du tout, foncièrement, l'amour de Christ peut-être manque dans son cœur, manque dans sa vie, et il y a peut-être des questions à se poser. Un, sur l'affectation. Suis-je vraiment là où je dois être ou je pense être là où je dois être, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que l'amour de Christ habite en moi assez pour aimer ces gens? Quelqu'un qui se comporterait d'une telle manière serait un peu comme Jonas qui va à Ninive, qui prêche la condamnation qui va tomber du ciel, et lorsque le peuple se repent, il est frustré et il dit à Dieu, c'est pour ça que je voulais pas venir à Ninive, parce que je savais que tu allais les pardonner. Alors on se rappelle que Jonas n'a pas été béni pour son service à Ninive, et pourtant il est allé là où Dieu le voulait. Donc, est-ce que je reçois et est-ce que j'accepte l'affectation de la part de Dieu? Deuxièmement, si on dit je suis à mon poste ou j'étais à mon poste, être veut dire aussi aller se placer là où on est affecté. Je vous ai déjà raconté le cas de cet homme qui me parle il y a environ maintenant 30 ans environ et qui me dit, Florent, oui, il y a 25 ans, Dieu m'a appelé. Mais il savait foncièrement lui-même et moi en l'écoutant, on savait tous deux qu'il n'était pas en train de faire ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Il se réjouissait d'avoir été appelé, il se réjouissait d'avoir été mandaté par Dieu, mais jamais il ne s'était rendu là où Dieu l'avait appelé, jamais il ne s'était rendu à son poste. Il y a certaines personnes qui se réjouissent effectivement d'avoir été interpellé par Dieu pour le service, mais il s'arrête là, se réjouit simplement d'avoir été affecté, sans pour autant se rendre là où leur affection, là où leur mandat devait se dérouler. Donc, au-delà de recevoir et d'accepter mon lieu d'assignation, il nous faut aussi s'y placer, être là-bas, se déplacer vers cet endroit où nous sommes supposés servir. Lorsqu'il dit j'étais à mon poste, ce que ça veut dire aussi j'étais, c'est qu'il y est demeuré. Donc dans le service, il y a aussi une question de demeurer là où on a été affecté. Il y a des gens qui prennent la facilité du travail, la joie du travail, comme étant une confirmation que Dieu nous voulait exactement à cet endroit. Et si les choses sont plus difficiles, si les choses sont moins agréables, si on nous fait le combat ou la lutte, à ce moment-là, ils commencent à douter, à savoir est-ce que Dieu me voulait vraiment là. La sentinelle qui était sur la tour, la sentinelle qui se trouvait sur la muraille, la première cible de l'ennemi, c'était la sentinelle. Pourquoi? Parce qu'il se disait, si on est capable d'abattre et d'éliminer la sentinelle en premier lieu, à ce moment-là, on va pouvoir fondre sur la ville, on va pouvoir tomber sur la ville sans que les gens aient été avisés, sans que le peuple n'ait pu se préparer, et on va avoir un combat beaucoup plus facile. Donc la sentinelle qui accepte d'être à son poste, accepte aussi d'être dans un endroit précaire, dans un endroit effectivement où le combat va débuter par elle. La sentinelle était sur le front pour protéger le peuple et sur le front pour aviser le peuple. Donc si on éliminait la sentinelle, on rendait le combat vraiment déséquilibré. Donc si tu es effectivement à ton poste, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois à ton poste? Mais premièrement, il a fallu que tu reçoives et que tu acceptes l'affectation de Dieu, qui te dit, voici, je te veux à tel endroit pour faire telle chose. Deuxièmement, il a fallu que tu ailles te placer là-bas, ou il faut que tu ailles en direction de cet endroit. Et une fois que tu y es, ben, il faut y rester. Et tu y restes tout aussi longtemps que le mandat t'est donné par Dieu. Il y a des gens qui sont effectivement en quête d'émotions, en quête d'émotions positives, en quête de joie X, et ils se promènent d'un endroit à l'autre, et ils ne sont jamais tout au long de leur vie dans cet endroit où ils sont supposés servir. Dès qu'ils sentent que la pluie arrive, ah, ça ne doit pas être la volonté de Dieu, je m'en vais ailleurs. Dès qu'ils sentent qu'une menace arrive, ah, ça ne doit pas être la volonté de Dieu, je m'en vais ailleurs. Dès qu'ils se sentent inappropriés pour un endroit, ah, ça ne doit pas être la volonté de Dieu, je m'en vais ailleurs. Dès qu'ils n'ont plus la joie initiale du service, ah, ça ne doit plus être mon temps, je m'en vais. Une sentinelle était là jusqu'à ce que son commandant lui dise d'aller se positionner ailleurs. Donc pour toi et pour moi, une grande question ce matin, est-ce que je suis à l'endroit où Dieu me veut? Est-ce que j'ai accepté le mandat de Dieu? Est-ce que je m'y suis rendu? Et est-ce que j'y demeure? Est-ce que Dieu peut compter sur moi? Est-ce que le peuple de Dieu peut compter sur moi? Que je serai à mon poste tout aussi longtemps que je dois y être? Je me rappelle une discussion que mon père me disait avoir eue avec ma mère. Ils en ont témoigné à l'occasion, où à un moment donné, ils sont en mission à Narbonne, là où ils ont été pasteurs pendant quelques années. Et les choses sont difficiles. La congrégation s'est vidée. Mon père, après avoir eu quelques membres initiaux à la congrégation, ben là, on se retrouve, il y a 4 membres dans l'église, ça comprend le pasteur lui-même, son épouse et ses 2 enfants. Donc le pasteur est en train de prêcher à sa propre famille. Ça dure pendant un certain temps, quelques semaines ou quelques mois. J'étais plus jeune à l'époque, donc la notion du temps m'est un peu dissoute, on va dire. Mais il est là en train de prêcher pendant un certain temps sans avoir de nouvelles âmes. Et il dit un jour à ma mère, je vais appeler le pasteur Fontalvaux, qui était le pasteur responsable, le pasteur senior de l'église. Et il dit, je vais l'appeler pour lui dire que je donne ma démission et puis qu'on laisse tomber tout ça. Et ma mère de lui répondre, ouais, tu peux toujours appeler le pasteur Fontalvaux et lui donner ta démission. Mais qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas lui donner ta démission aussi. Et ça a effectivement changé le cours de l'existence de mon père. Ça a changé le cours de l'histoire de notre famille, parce que mon père, à cette question-là, s'est rendu compte qu'il ne pouvait effectivement pas dire à Dieu « je démissionne » et qu'il est donc resté à sa place. Et aujourd'hui, ma sœur, bien des années plus tard, ma sœur et principalement son époux, le pasteur Juan Carlos, donc sont là en train de faire l'œuvre, de continuer l'œuvre, en dépit des saisons, en dépit des circonstances à Narbonne. Donc pour toi, il y a ce même questionnement-là. Si Dieu t'a envoyé, es-tu à ton poste et demeures-tu à ton poste? Lorsqu'on parle de poste, c'est le terme Mishmereth. Mishmereth, donc Mishmereth, je répète, Mishmereth pour poste, donc Mishmereth, qui va parler de garde, de charge, de responsabilité, de service, d'office et de fonction. Lorsqu'il disait « j'étais à mon poste », le terme « être amad » nous parlait foncièrement d'un endroit géographique. Lorsqu'on parle du poste, Mishmereth, on parle plutôt ici d'une fonction. Donc, un peu les 3 questionnements qu'on a eus par rapport à l'endroit. Maintenant, les 3 mêmes questionnements, mais par rapport au poste. Ai-je reçu et ai-je accepté le mandat de Dieu? Tout à l'heure, c'était le lieu d'affectation. Est-ce que je l'ai accepté? Est-ce que je l'ai reçu effectivement de Dieu? Et maintenant, c'est est-ce que j'ai reçu le mandat et est-ce que j'ai accepté le mandat de Dieu? Je vous ai déjà expliqué, je crois, que lorsque j'ai reçu l'offre du pasteur Fontalvaux pour servir à ses côtés à titre de pasteur, le Seigneur, il me disait qu'il avait entendu audiblement la voix de Dieu lui dire à 2 occasions, « Va chercher Florent, demande-lui d'être ton assistant et demande-lui de telle manière spécifique et il va accepter. » Alors que le pasteur Fontalvaux savait que je me destinais à un autre type de ministère, que j'étais probablement dans les derniers mois ou les derniers milles, on va dire les derniers kilomètres de fonction à l'église, que je me préparais peut-être à autre chose. Et le Seigneur, avant que je ne parte, donc va dire au pasteur Fontalvaux, va chercher Florent et dis-lui d'être ton assistant de telle et telle manière. Et effectivement, il m'a présenté la chose de telle et telle manière. J'ai eu le temps de prier, de parler avec mon épouse, de parler avec mon père qui était à l'étranger à ce moment-là, si je me rappelle bien, et de parler avec mes collègues, puisque je siégeais au niveau du collège pastoral de l'église. Et j'ai pas eu de réponse. Et en revenant, avec le jour où je devais donner mon assentiment ou pas, j'ai dit au pasteur Fontalvo et aux autres collègues, ben, le Seigneur ne m'a rien dit. Et le pasteur Fontalvo me dit, ben, regarde, s'il ne t'a rien dit, c'est donc qu'il est d'accord. Mais je te dis encore que le jour où le Seigneur t'appelle à faire autre chose, tu as le droit de quitter le lendemain matin. Et cette phrase-là était la phrase que j'avais besoin d'entendre pour être capable de dire oui. Le piège là-dedans, c'est que à toutes les autres occasions de service de ma vie, j'avais toujours eu non seulement l'affectation, le mandat, mais aussi la durée. Le mandat, le lieu, mais la durée. Et je savais en général que ça tournait entre 2 ans et 3 ans. Lorsque le Seigneur est venu avec cette ouverture de porte pour le pastorat au niveau de l'Église des apôtres de Jésus-Christ, de mon Église, de l'Église où j'ai grandi, cette fois-ci, il ne m'a pas donné de date. Et je m'en suis rendu compte simplement des années plus tard où je me suis mis à réfléchir et je me dis, mais Seigneur ne m'a pas donné de date. Donc, je ne peux pas arriver avec un calendrier puis dire j'ai telle ou telle date butoir qui font qu'après ça, je m'en vais. Et le Seigneur m'a effectivement eu, entre guillemets, avec cette technicalité. Et j'en suis tout à fait heureux aujourd'hui. Là. Je sers et j'aime servir où je sers et j'aime l'Église où le Seigneur m'a placé. Mais effectivement, la question pour moi, c'était est-ce que j'accepte le mandat? Et je l'ai accepté avec tous les défis, avec tout ce que ça comportait de joie et parfois d'inquiétude ou de larmes. Donc la question pour toi, as-tu reçu un mandat de la part de Dieu et as-tu accepté ce mandat? De surcroît à cela, un peu comme l'homme qu'on parlait tout à l'heure, j'ai reçu l'appel de Dieu il y a 25 ans, mais de surcroît à cela, donc exécutes-tu le mandat de Dieu? Tu peux te réjouir d'avoir été appelé, mais ne jamais exécuter ta tâche. À ce moment-là, tu es demeuré un appelé et non pas un ouvrier. C'est un peu comme l'armée qui convoque ses ressortissants, qui fait un appel pour enrôler des soldats, et les gens disent « Je suis content, j'ai été appelé par l'armée pour être enrôlé », et jamais ils ne se présentent à leur poste d'assignation, et jamais ils n'effectuent le travail. Donc la question pour toi et pour moi, as-tu reçu le mandat de Dieu? As-tu accepté ce mandat? T'es-tu mis à exécuter, à faire le travail qui va avec? Et enfin, un peu comme tout à l'heure par rapport au lieu géographique, si tu dis que tu es à ton poste, donc tu as persisté dans ton mandat, tu es demeuré dans ton mandat, tu t'es assuré de travailler et de faire en sorte que ce travail perdure et travaille et continue. La semaine dernière, on parlait d'offrir une vie de qualité à Dieu, et une des notions qu'on a vues la semaine dernière dans la construction du temple était justement un des matériaux qui était le granit et le marbre pour faire ces colonnes qui soutiennent le bâtiment, qui soutiennent la construction, et qui, même lorsque la construction brûle ou est détruite, on a encore les vestiges de ces grandes colonnes qui reste et demeure debout. Donc, toi, dans ta vie, as-tu, un, accepté, étais-tu placé à l'endroit où Dieu voulait que tu sois, y es-tu encore? Deux, as-tu accepté le mandat? As-tu accepté la tâche à laquelle il t'appelait? T'y es-tu attelé? Y es-tu en train de fonctionner? Et as-tu fonctionné sur le long terme? Je peux vous confirmer que pour bon nombre de pasteurs et pour bon nombre d'équipes pastorales, voire d'équipes de travailleurs ou d'ouvriers au sein d'une congrégation, un des éléments qui est difficile, c'est de travailler avec des gens qui sont là de façon sporadique. Un jour je suis là, un jour je suis pas là, un jour je suis là, un jour je suis pas là. Et l'attitude de ces personnes, c'est ben profite-en tant que je suis là parce que demain matin je pourrais ne plus être là. Et ne te plains pas que je ne sois pas là demain matin, au moins aujourd'hui j'y suis. J'étais pas là hier, mais j'étais là avant-hier. La problématique avec de tels ouvriers, c'est qu'il nous est impossible de bâtir sur de tels ouvriers. Il nous est impossible de bâtir, de construire quelque chose de durable avec quelqu'un qui un jour est là et un jour n'est plus là. C'est un peu ce que je dis parfois dans certains couples où on ne cesse de répéter « ben si ça va pas, je m'en vais ». Et ça dure et ça dure sur des mois et sur des années. Et on ne cesse de prononcer cette phrase, mais si tu n'es pas contente, tu peux partir. Ou moi, si à un moment donné, je suis tanné, ben, je m'en vais. Mais à force de répéter qu'on va toujours partir ou qu'il y a toujours cette possibilité de partir, ben, on affaiblit nos couples. Et idem dans l'Église, lorsque quelqu'un ne fait que nous répéter tout au long des années, ben, moi, demain, je pourrais ne plus être là. Il y a de la difficulté à faire confiance à cette personne et surtout à lui confier des charges. Alors plusieurs personnes vont se fatiguer, s'éreinter, accumuler différentes positions et différentes charges, tout simplement parce que au sein de l'équipe, il y a ce genre d'ouvrier qui est tout le temps là avec une épée de Damoclès sur notre tête qui nous dit « Il se pourrait que demain je sois parti. » On ne peut pas construire dans un tel contexte. Donc voilà pourquoi il est important non seulement de connaître l'appel de Dieu, de se placer dans cet endroit-là, mais aussi de veiller à faire notre travail et à le faire sur le long terme en abandonnant ces questions d'être un peu... J'ai le terme qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, je vais me permettre de l'employer en espérant n'offusquer personne. Ne soyons pas des pigeons voyageurs. À un moment donné, il faut savoir s'établir quelque part. La Bible nous dit que nous sommes des arbres. Ces arbres, on ne peut pas les déraciner constamment. On ne peut pas prendre un arbre, le planter dans un endroit, puis le retirer, le planter dans un autre. Un tel arbre ne peut pas croître. Un tel arbre ne portera pas de fruits. Lorsque vous déracinez un arbre fruitier de son endroit initial et vous l'implantez ailleurs, ça prend un certain nombre d'années avant qu'il ne puisse reporter du fruit de nouveau. Il y a certains arbres que tu déracines et ils ne porteront plus de fruits. Ce ne doit pas être notre cas. Et même si on se dit, c'est le Seigneur qui me déplace, soyons certains de ne pas mettre des mots dans la bouche de Dieu qu'il n'a pas prononcés. Malheureusement, avec l'expérience de vie au sein de l'Église avec un grand E et de l'Église locale, je peux vous assurer que bien des fois, ce n'est pas Dieu qui déplace quelqu'un, mais c'est la personne qui décide de se déplacer. Et foncièrement, elle fait du mal à sa propre vie, à son entourage immédiat, mais aussi au corps de Christ local, duquel elle part et elle laisse un gouffre, un trou d'où elle a été déracinée. Et bien entendu, lorsqu'elle essaie de s'implanter ailleurs, il y a tout ce temps de réadaptation pour cet arbre, mais aussi pour le restant de ses frères et de ses sœurs qui doivent regarder, qui doivent dire, mais on reconnaît un arbre à ses fruits, porte des fruits, on ne te connaît pas, on ne connaît pas encore tes fruits. Mais il se pourrait que cette personne ne porte jamais de fruits parce qu'elle s'est déracinée de là où elle devait être plantée. Alors pour nous, que ce soit important pour toi et pour moi de se poser la question, Seigneur, ai-je entendu ta voix? Suis-je là où tu me veux? Est-ce que je suis allé et je me suis placé là où tu me voulais? Est-ce que j'y suis demeuré? Seigneur, est-ce que j'ai reçu effectivement un mandat de ta part? Est-ce que je me suis attelé à ce mandat-là, à accomplir cette œuvre-là? Et Seigneur, est-ce que j'ai persisté? Est-ce que j'ai demeuré? Est-ce que je suis demeuré plutôt dans ce mandat? Ou je suis plutôt celui qui va butiner d'un endroit à l'autre et se promener un peu comme un papillon qui va d'une fleur à l'autre? Donc, voilà les questions que tu as à te poser ce matin. Es-tu à ton poste? Es-tu encore à ton poste? Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour ces quelques phrases de ce matin qui nous amènent à réfléchir. Chacun d'entre nous avons été appelés à te servir. Chacun d'entre nous, tu avais un plan, tu avais un propos, tu avais un objectif pour nous. Et la question, Seigneur, c'est est-ce que nous sommes à notre poste? Est-ce que nous y sommes encore? Est-ce que nous y sommes pour aussi longtemps où tu nous y voudras? Je prie, Seigneur, que je sois effectivement là où je dois être, en train de faire ce que tu voulais que j'y fasse, et tout aussi longtemps que tu me veux à y être et à y faire ce que j'y fais. Mais je prie qu'il en soit de même pour tous ceux qui nous écoutent ce matin, pour tous mes frères et toutes mes sœurs. Certains d'entre eux sont peut-être en route vers cet endroit. Certains d'entre eux sont peut-être déjà à cet endroit. Je prie, Seigneur, que tu les éclaires, que tu les diriges et qu'ils soient des ouvriers fidèles, de bons et de fidèles ouvriers. Un ouvrier fidèle, c'est quelqu'un qui a tenu dans le temps et dans le mandat. Un ouvrier qui est bon, c'est un ouvrier qui a fait ce qui devait être fait, non seulement à l'endroit, non seulement dans la fonction en soi, mais aussi dans le temps qui était imparti. Alors je prie, Seigneur, que ceux qui nous écoutent ce matin soient de tels serviteurs, de telles servantes, de telles sentinelles. Et qu'en toute chose, que toute la gloire te revienne à toi, et strictement qu'à toi, nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, juste avant qu'on ne se quitte, je veux juste vous rappeler un peu les procédures pour le déconfinement de l'Église. On l'a annoncé hier. On a donc droit, à partir d'aujourd'hui, d'accueillir le dimanche matin un groupe de 100 personnes et on a abaissé l'âge minimum de 12 à 8 ans. Ça va nous permettre d'accueillir des familles aussi ou des parents avec des enfants âgés de 8 ans et plus. Donc, pour ce faire, les inscriptions sont encore de mise. Donc, vous appelez ou au numéro de l'Église au 514-273-8295. J'y vais rapidement, mais si vous regardez juste un peu en bas sur la page Facebook de l'Église, vous avez aussi toutes les informations. Ou vous écrivez à secrétariat-eajc@commercial.gmail.com. Vous nous laissez votre nom complet, le nom de toute personne qui vous accompagne, et on rappelle, toute personne veut dire toute personne âgée de 8 ans et plus, et vous attendez notre retour d'appel ou notre retour de courriel. Une inscription n'est valide qu'une fois qu'on a communiqué avec vous. Pourquoi? Parce que s'il y a plus de 100 personnes qui s'inscrivent, ça nous prend aussi de dire à ceux qui sont excédentaires qu'ils seront appointés pour une autre assemblée. Donc, les appels se font, les inscriptions se prennent jusqu'à vendredi matin et les appels se font en deux sections. Mercredi, il y a une première vague d'appels qui est faite, ou une première vague de courriel qui est faite, et après ça, vendredi, il y a une deuxième vague qui est faite. Donc, on espère que vous serez nombreux. On a déjà beaucoup de noms qui rentrent depuis hier. On est dans un rythme un peu plus élevé que d'habitude. Donc, on espère remplir les 100 places. On espère que vous serez là. Donc, si vous voulez le faire, regardez sur la page Facebook. Vous aurez encore une fois toutes les informations à ce sujet. Alors, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Ne manquez pas le cours biblique avec le pasteur André ce soir sur le livre des Actes. C'est à 19h sur Zoom et sur la page Facebook de l'Église. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous.